Suivez le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur l'antenne de Radio Territoria pour vous faire vivre en direct cette seconde journée du 84e congrès HLM ici à H-Expo à Montpellier depuis le stand du gouvernement qui nous accueille pour cette première émission de la journée. Eh bien, focus sur l'article 55 de la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, avec les contrats de mixité sociale introduits par la loi 3DS du 21 février 2022, loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration. Et pour en parler, nous accueillons une experte du sujet et quatre acteurs locaux que je m'empresse de vous présenter. Julie Bergeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la mission d'appui SRU à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, ministère du logement et de la rénovation urbaine. Bonjour. Claudine Vassamégeri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire de la commune de Castries et vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée à l'habitat, au logement et au parcours résidentiel. Nabil Zouhari, bonjour.
Bonjour.
Chef du service programmation et développement de l'habitat à Montpellier Méditerranée Métropole. Aïda Lakeal, bonjour.
Bonjour.
Adjointe au chef du service habitat de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault. Et puis Sophie Lafenêtre, bonjour.
Bonjour.
Directrice générale de l'établissement public foncier Occitanie. Merci à toutes et tous d'être présents aujourd'hui sur ce salon. Et puis vous en avez l'habitude, hein, si vous nous suivez depuis hier, vous avez la possibilité d'interagir directement avec nos invités. Vous avez la possibilité en fait de poser vos questions. Elles seront relayées en dernière partie d'émission par Hélène Parmentier. Bonjour.
Bonjour.
Chargée de mission à la sous-direction territoire et usagers au sein du ministère chargé du logement. Alors, pour rappel, la loi SRU impose aux communes les plus peuplées un taux minimum de logements sociaux de 20 ou 25% par rapport à l'ensemble des résidences principales. Sur plus de 2000 communes concernées par ces obligations, un peu plus de la moitié sont déficitaires en n'atteignant pas leur taux cible de 20 à 25% de logements sociaux. Elles doivent donc respecter une trajectoire de rattrapage évaluée tous les 3 ans. Les contrats de mixité sociale, c'est le volet opérationnel de ce dispositif de rattrapage et il se concentre sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs triennaux. Julie Bergeau, cette première question, elle s'adresse à vous. Plus de 2 ans après la loi 3DS et l'introduction des contrats de mixité sociale pour amplifier la dynamique de rattrapage des logements sociaux dans les communes concernées, est-ce qu'on peut déjà faire un bilan des actions menées dans les territoires concernés ?
Alors oui, Jean-Baptiste, on peut déjà faire un bilan en fait des démarches de contrats de mixité sociale qui se sont élaborées. Là, donc, il faut savoir qu'on est dans la période au titre des procédures SRU 2023-2025 et qu'aujourd'hui, à date, on a un peu plus de 350 contrats de mixité sociale signés. Environ 80 qui sont encore, on va dire, en cours d'élaboration, mais sur lesquels il y a espoir d'aboutir assez rapidement. Donc voilà, on va peut-être arriver à environ 400 CMS signés pour cette période. Alors 400, qu'est-ce que ça veut dire en termes de bilan ? En gros, il faut savoir qu'il y a un peu plus de 1100 communes qui sont déficitaires, donc qui n'atteignent pas leur taux en France. Et donc, en gros, on voit que 30% de ces communes ont signé un contrat de mixité sociale. Et plus encore, la statistique est intéressante, les communes qui sont aujourd'hui carencées, alors je le précise en fait, les préfets ont la possibilité tous les 3 ans de prendre des arrêtés de carence contre des communes pour lesquelles ils considèrent que les résultats sont insuffisants et surtout que les efforts ne sont pas assez significatifs. Aujourd'hui, on en a 341 et on voit que 38% de ces communes carencées aujourd'hui ont signé un contrat de mixité sociale. Donc en termes de bilan, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? En fait, on retrouve un petit peu la ligne qui est aussi un peu une ligne de crête qu'on a développée sur le déploiement de ces outils, qui était de combiner une ambition, une exigence. Le but, c'était pas de signer partout et à tout prix, mais en même temps, vraiment, de pouvoir répondre à des communes qui expriment des difficultés et qui ont besoin d'être accompagnées et de pouvoir mettre dans ce contrat l'ensemble des actions, des engagements qu'elles comptent prendre. Un petit élément de bilan, et après j'arrêterai avec les chiffres. On l'avait dit, la particularité des contrats de mixité sociale, outre de détailler l'ensemble des actions qui vont être mises en place sur l'urbanisme, le foncier, on y reviendra, c'est la possibilité, et vraiment c'est une nouveauté de la loi 3DS, d'aménager le rythme de rattrapage des communes en abaissant un petit peu ce rythme pour la période donnée. Là aussi, on se demandait, est-ce qu'il va y avoir que des contrats de mixité sociale abaissant ? La réalité, c'est non. On a un peu plus de 50% des contrats de mixité sociale qui ont été signés, qui sont abaissants. Donc ça veut dire qu'on retrouve ce même équilibre entre une exigence, on n'abaisse pas pour tout le monde, mais quand il y a des réelles difficultés, des engagements, bah oui, abaisser le rythme, ça peut être une réponse. Voilà. Et je vais arrêter là avec les chiffres, puisque au-delà même du document, du bout de papier, on a toujours dit que l'essentiel, c'est quand même la dynamique qui se lance sur le territoire. Et bah, cette dynamique, je pense qu'on l'a, pour mieux la capter, il faut donner la parole aux acteurs locaux. Et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui.
Eh oui, effectivement, c'est le moment d'entendre ceux qui ont signé un contrat de mixité sociale à Castries, commune de la métropole de Montpellier-Méditerranée. Nous écouterons les services de l'État, la commune, la métropole et l'établissement public foncier d'Occitanie. Pour commencer à tous, comment avez-vous abordé cette démarche ? C'est la question qu'on vous pose. Et Aïda Lakéal, on peut peut-être commencer par les services de l'État, adjointe au chef du service Habitat de la DTM de l'Hérault.
Oui. Donc effectivement, côté Habitat, on a appréhendé la mise en place des contrats de mixité sociale à la fin de la période triennale 2020-2022. On a souhaité positionner le PCI en chef de file de la démarche, ce qui était un peu nouveau dans le cadre de l'exercice SRU, qui est habituellement une relation bilatérale entre l'État et la commune SRU, parce qu'on trouvait ça intéressant d'avoir cet acteur, le PCI, porteur d'une politique locale de l'habitat, d'un PLH, délégataire des aides à la pierre depuis plus de 15 ans pour la métropole de Montpellier. On trouve intéressant qu'il s'empare pleinement et qu'il s'approprie ce dispositif des contrats de mixité sociale. Aussi en interne, on a désigné une chef de projet en charge de l'élaboration des CMS qui avait cette culture mixte habitat-aménagement qu'on voulait un peu amener dans le cadre de l'élaboration de ces contrats et qui savait travailler en mode projet. Donc ça, c'était une nouvelle organisation interne qui nous a permis d'aborder cet exercice des CMS. Aussi sur l'état d'esprit, avec l'accord du préfet, on est plutôt parti sur une logique d'obligation de moyens plutôt que de résultats. La période triennale 2023-2025 était déjà bien enclenchée. On savait ce qu'il y avait dans les cartons, donc on a plutôt voulu se projeter sur du moyen long terme, amener les communes à définir une stratégie urbaine, foncière, et mettre les communes sur les rails d'une dynamique de production qui porteront leurs fruits plutôt sur du moyen long terme.
Il y a un travail en étroite collaboration avec la métropole également. Et puis en interne, une désignation aussi d'un chef de projet, j'ai vu.
C'est
aussi.
Ça.
Ok, ouais. C'est parfait. On enchaîne avec Claudine Vassamégerie. Je rappelle que vous êtes la maire de Castries. On en vient donc à votre commune, dont nous sommes ravis de vous accueillir sur ce plateau. Cette démarche de CMS, comment vous l'avez abordée concrètement sur votre commune ?
Alors cette histoire de CMS, elle provient d'une histoire qui date de plusieurs années, puisque nous ne sommes pas en carence dans notre commune, hein, qui est de 6800 habitants, hein, pour donner cette précision, mais nous sommes en déficit de logements sociaux et nous nous étions emparés déjà de certains outils, comme par exemple la servitude de mixité sociale depuis 2013 dans notre PLU à partir de 600 m² de habitable, nous exigeons 33% de logements sociaux. Et nous avions aussi une politique de foncier en vendant à des bailleurs sociaux des terrains communaux dévalués pour construire du logement social. Alors avec ces deux outils, nous avons quand même énormément progressé, puisqu'en quelques années, nous sommes passés de 8% de logements sociaux à 14,5% aujourd'hui. Mais ça n'est toujours pas suffisant. Et cet outil de contrat de mixité sociale nous a paru pertinent. Et c'est ce que nous avons travaillé avec les services de l'État et la métropole pour co-construire un programme à court terme, pour la période triennale actuelle dont on a parlé, pour bâtir une programmation proche de l'objectif des 33%, puisqu'on doit, sur ces 3 ans, construire 33% de notre déficit. Donc là, pour nous, c'est une bonne centaine de logements sociaux à programmer jusqu'à fin 2025 et d'anticiper et de préparer préparer la prochaine période, parce qu'on voit que les projets sont très longs à se mettre en place concrètement. Donc nous avons pu construire cette prochaine période avec des données quand même assez sûres dans l'avenir. Et puis moi, je pense aussi que c'est un bon outil pédagogique, parce que les gens, la population comprend souvent mal pourquoi nous construisons. Une fois qu'ils sont installés, bien plus personne ne doit arriver. Donc il faut, ça permet d'avoir toutes les données dans un document et de faire œuvre de pédagogie aussi auprès de la population.
Merci. On se tourne maintenant vers Montpellier Méditerranée Métropole avec vous, Nabil Zouari. Je rappelle que vous êtes chef du service programmation et développement de l'habitat. Avec Madame Lecanel de DTDM, vous avez insisté sur votre rôle de chef de file dans cette démarche. En quoi ça a impliqué, ça a marqué votre façon de l'aborder directement sur la commune de Castries ?
Tout à fait. Effectivement, la métropole de Montpellier définit la politique locale de l'habitat et du logement à l'échelle des 31 communes qui la composent. Et à ce titre, elle est légitime pour endosser ce rôle de chef de file dans cette démarche CMS. Alors, vous ne le voyez pas, cher auditeur, mais je tiens dans les mains une plaquette qui décrit d'une cinquantaine de pages.
Logement pour tous.
Exactement, le logement pour tous, un choix, un droit, qui décrit de manière assez exhaustive l'ensemble des outils et des dispositifs que nous déployons au sein de la métropole. Et ces outils, nous les avons choisis pour qu'ils soient les plus pertinents sur Castries, pour développer une offre neuve de logements locatifs sociaux, mais aussi, par exemple, pour mobiliser le parc privé à des fins sociales. Donc voilà un exemple concret de rôle que peut endosser la métropole de Montpellier. La métropole de Montpellier impulse aussi une dynamique en termes d'habitat. Elle débloque des situations. Je pense au plan d'urgence pour le logement qui a été adopté en 2023. Un plan d'urgence de 100 millions d'euros. Je ne prendrai qu'un seul exemple. Nous avons quintuplé nos aides à la pierre. Et ces aides-là vont directement servir les opérations que nous avons identifiées dans le contrat de mixité sociale. Et enfin, la métropole a voulu mobiliser toutes ses ressources internes. Nous avons mobilisé la direction de l'aménagement, la direction du foncier. Nous avons mobilisé la direction de la planification réglementaire dans un contexte d'atterrissage du PLUI. Et donc tout ça pour aboutir à un CMS le plus opérant possible. Nous nous retrouverons fin 2025-2026 pour faire le bilan de ce contrat de mixité sociale et on sera tous autour de la table avec le même objectif d'aboutir à un CMS qui atteint ses objectifs.
Et on vous tendra le micro à nouveau pour parler de ce bilan. Merci en tout cas. Et puisqu'on parle des leviers opérationnels pour la production de logements sociaux, c'est donc vers l'établissement public d'Occitanie que je me tourne et sa directrice Sophie Lafenêtre. Pour un EPF d'État comme le vôtre, c'était quoi l'enjeu d'être associé finalement au contrat de mixité sociale de la commune de Castries ?
Nous y avons trouvé deux enjeux principaux. Le premier, dans tout ce qui a été expliqué, c'était la construction de cette stratégie. C'est-à-dire qu'on sait que c'est pour produire du logement social, mais là où vous avez insisté, c'est à court terme. Et cette question de comment je produis à court terme, se dire où je produis, c'est une question, mais surtout, est-ce que l'opération sortira vite ou pas ? Et ça va dépendre de ce à quoi on est confronté. Donc d'avoir cette compréhension et d'avoir cette vision construite entre l'État, la commune et la métropole, c'est assez fondamental parce qu'on ne proposera pas, nous, après, les mêmes façons d'intervenir côté établissement public foncier. Puis le deuxième aspect, c'est qu'une fois qu'on a cette stratégie, ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite sur de la tactique opérationnelle. C'est justement quels outils on va mettre en place, comment on y va, est-ce qu'on est sur de la saisie d'opportunités, est-ce que vous avez déjà identifié des choses. Et ça, le CMS nous a fait gagner beaucoup de temps. C'est vrai, cette culture opérationnelle, en tout cas, est assez prégnante par rapport à des collectivités où on a juste une convention foncière et on n'a pas cet outil supplémentaire finalement mis en place.
Alors, à tous, cette question, elle s'adresse à tout le monde. En quelques mots, qu'est-ce qui vous a marqué par rapport à cette démarche ? Qu'est-ce que vous en retirez, chacun, dans vos rôles respectifs, sur Castries, ou même, de manière générale, plus globale, hein ? On commence peut-être avec Aïda Lakia.
Oui, alors ça a été une démarche extrêmement riche. Hein. On a pu être au plus près des territoires, comprendre un peu les différentes logiques et les différentes difficultés que rencontraient les communes, de taille très variable. Hein. On a une diversité de communes assez importante sur le territoire de communes SRU, en tout cas assez importante. Voilà, je pense que le partenariat a été très riche. On a créé les contrats de mixité sociale autour d'une équipe resserrée avec le PCI, la métropole, donc le PF et nous, État, mais avec les différentes composantes, aménagement, foncier, planification, habitat. Nous, on comprend mieux les communes, on a pu adapter notre discours, adapter l'outillage aussi qu'on peut leur apporter. Et je pense que la méthode d'élaboration des CMS, même si voilà, on va signer 4 CMS, dont celui de Castries, mais plus globalement, ça infuse notre manière d'accompagner les communes. On sort un peu de la logique comptable qu'on avait jusqu'à présent sur l'exercice SRU, dans une démarche plus d'accompagnement, de prise en charge du sujet du réinvestissement urbain et de la production de logements sociaux. Voilà, une expérience très riche. Et des résultats vraiment intéressants sur des communes à la traîne. On a vu des vrais changements de posture sur des communes beaucoup plus outillées, avancées comme Castries. On a aussi des belles victoires. On a la signature d'une convention avec le PF là, qui s'est mise en place à la suite du CMS. Donc une riche expérience.
Madame la maire de Castries, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce rapport ?
Alors moi, ce que j'en retiens déjà en amont, tout ce travail en lien avec les services de l'État et en lien avec la métropole, qui ont vraiment mis en commun, on a rédigé, je dirais, à trois voix, et chacun avait sa partie, parce que c'est très complexe, hein, la connaissance du nombre de logements, ça évolue, etc. Donc c'est vraiment une mise à plat globale de notre situation, et surtout, évidemment, le partenariat avec l'établissement public foncier. Nous avons passé en conseil municipal à la fois ce contrat de mixité sociale et une signée à 4 en fait, et une convention spécifique avec l'établissement public foncier, avec lequel nous aurons maintenant l'opportunité d'avoir des projets, puisque nous n'avons pas les moyens financiers d'acheter des terrains. Lorsqu'il y a des opportunités, ben c'est l'EPF qui se portera acquéreur et qui supportera un certain surcoût pour revendre à un bailleur social, et ça va nous permettre d'avancer très concrètement sur nos projets. Nos projets de construction de logements sociaux. Et puis peut-être je voudrais souligner l'appui de la métropole dans le suivi et la mise en œuvre de certains projets comme les participations urbaines, les PUP, tout ce qui est action sur le centre ancien, la définition d'un périmètre de veille foncière, et un suivi dans le temps avec ce partenariat qui va perdurer, puisque nous aurons une sorte de comité de pilotage et régulièrement nous ferons un point sur nos avancées et nos points de blocage éventuellement, parce qu'il y en a aussi.
Très bien, merci Nabil Zouhari. Je reviens vers vous dans un instant. Juste, je rappelle qu'on est en direct sur Radio Territoria et que vous avez toujours la possibilité de nous envoyer des questions pour interpeller directement nos invités ici présents et qui ne manqueront pas d'y répondre tout à l'heure. Donc Nabil Zouhari, pareil, quelle est votre réaction par rapport à ce rapport ? Comment vous l'avez appréhendé ?
Alors moi, je dirais une meilleure appréciation des besoins de la commune, c'est important. Elle est au cœur de ce dispositif. Nous savons tous qu'il faut désormais produire en réinvestissement urbain, développer une ingénierie foncière, procédurale, financière, ça on le sait. Par contre, il est important de partir des besoins et de cas concrets. Ça facilite vraiment pas mal les choses et ça a accéléré les échanges dans le cadre de ce CMS. Et puis, ces échanges aussi ont permis de dévoiler quelques actions un peu structurantes. Je pense au lancement d'une étude sur un secteur PAPAG, un secteur cher à Madame la maire d'entrée de ville, important parce que c'est la première chose qu'on voit quand on rentre dans Castries. Je pense pourquoi pas au développement du DPUR pour aller saisir chaque opportunité pour faire du logement social. Et on va notamment, par exemple, lancer une campagne d'information et de sensibilisation importante, vaste, auprès des propriétaires de logements vacants, pour là aussi essayer de mobiliser le parc privé à des fins sociales. Et puis, mes collègues l'ont dit autour de la table, cet échange-là a permis vraiment de faciliter le partenariat avec l'EPF, un partenariat qui dépasse le cadre de ce CMS. Et là, c'est quelque chose de concret. Madame la directrice générale l'a dit, on va travailler sur des fonciers mutables à court terme, à moyen terme. Donc là, c'est vraiment une très très belle réussite.
Et ben justement, on va se tourner vers l'établissement public foncier Occitanie. Votre réaction par rapport à ce rapport, comment vous l'avez appréhendé, Sophie Lafenêtre ?
Alors c'est toujours plus facile quand on a des décideurs qui savent où ils vont. Là, c'est le cas. Là, pour le coup, le triumvirat fait que le cap est assez clair. Donc concrètement, CMS à peine signé. Donc nous, on a passé une convention avec les collectivités à hauteur de 6 millions, je crois, Madame le maire, hein, c'est ça. Donc 6 millions d'acquisitions pour essayer d'avancer, qui doivent couvrir à peu près la centaine de logements en tout cas qui sont visés dans le CMS. Et nous sommes déjà dans le cadre de premières acquisitions, c'est-à-dire les premières opportunités. Là, on est sur des préemptions, donc ça veut dire qu'à peine signé, déjà, il y aura des premiers, en tout cas des premières actions très, très concrètes. Et ce que je trouve très intéressant, parce qu'en fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est intéressant de faire du court terme et de pouvoir saisir les opportunités. Mais en fait, il faut s'inscrire sur une dynamique de moyen et long terme. Et dans le cadre de ce CMS, toutes les études qui sont menées, l'identification de secteurs, permettent aussi de travailler en parallèle des choses à un peu plus long terme qui permettront de développer d'autres outils. Là, on parle de veille foncière, on parle de... Des fois, ce n'est pas toujours par l'acquisition, des fois de la régulation avec de la préemption à prix révisé. Voilà tout ce qu'on va proposer et qu'on va travailler avec les collectivités et l'État, de manière à se dire, certes, on aura le CMS, mais plus loin que le CMS, en fait, on accompagne un projet de développement de territoire. Et c'est beaucoup plus confortable quand on a l'ensemble de ce cadre.
Évidemment, dans une poignée de secondes, on va prendre les premières questions. Peut-être juste avant, Julie Bergeau, est-ce que vous souhaitiez vous ajouter quelque chose à tout ce qui vient d'être dit finalement ?
Oui, moi je souhaite toujours ajouter quelque chose.
Eh bien allez-y, faites-vous
déjà,
plaisir.
Déjà, évidemment, un immense merci. Voilà, je pense que, enfin moi ce qui me marque, c'est vraiment quand on a, après la loi donc 3DS de 2022, quand on a conçu le déploiement, on était vraiment dans l'approche renouvelée sur cette thématique du rattrapage dans les communes déficitaires. Et l'exemple là qu'on montre aujourd'hui de la commune de Castries, c'est intéressant parce que on voit que même dans une commune très volontaire, avec une métropole très équipée, très mobilisée, etc., des services de l'État, des opérateurs présents, on pourrait se dire finalement tout est déjà là, il y a un PLH, un PLUI, etc. Mais on se rend compte que la démarche CMS, par sa particularité, parce que oui, tout d'un coup, on fait vraiment le focus sur une commune, etc., parce qu'on échange peut-être de façon différente, eh bien ça permet encore finalement de cranter des choses et d'avancer. Quand bien même on avait l'impression que tous les leviers étaient déjà activés. Donc ça, effectivement, c'est des choses qui font plaisir à entendre et surtout de voir qu'il y a une vraie appropriation de la démarche par les acteurs. Et alors, justement, si j'ai encore quelques minutes...
Allez-y.
Donc je rappelle, 2022, c'était la loi 3DS. Fin 2022, début 2023, on a conçu un guide de déploiement qui a été diffusé à l'ensemble des acteurs. Puisque justement, il faut rappeler que ce dispositif des contrats de mixité sociale, certes, il a été inscrit dans la loi, mais après, il s'est déployé sans texte réglementaire. On était dans la loi quand même différenciation, avec l'adaptation locale, l'idée de faire confiance quand même aux acteurs. Donc il y a des éléments de doctrine, des contrats, une trame type, etc. Mais après, c'était vraiment de laisser la main. Et ce qu'on voudrait faire, je l'annonce aujourd'hui, ce qu'on veut lancer, puisqu'on arrive un petit peu à la fin de cette campagne de CMS pour la période 2023-2025, c'est faire une vraie démarche de retour d'expérience pour donner la parole. Je disais, il va y avoir 350, peut-être 400 CMS signés, pour donner la parole aux acteurs, un peu, je dirais, dans une double visée, valoriser les démarches qui se sont faites, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des communes qu'on n'a pas réussi encore à mettre dans la démarche, donc valoriser ce qui s'est fait, et puis identifier quels sont les points qui ont permis que ça aboutisse, quels ont peut-être aussi été les points qui ont fait que les démarches ont eu plus de mal, pour en sortir des préconisations, des points d'appui, de vigilance pour la prochaine campagne, puisque comme vous l'avez dit, le rattrapage, ça va très très vite. Et voilà, très vite, on va se projeter dans la période 2026-2028. Voilà.
Merci beaucoup, Julie, pour toutes ces précisions. Allez, Hélène, je me tourne vers vous à présent. Est-ce qu'on a des questions d'auditeurs ?
Oui, alors, je commence par la première question d'un auditeur. Comme le rappelait Julie, il y a un guide de déploiement pour les contrats de mixité sociale. Il est bien rappelé qu'on est sur une période triennale. Or, les actions à mettre en œuvre peuvent mettre beaucoup de temps à porter leurs effets. Pourquoi ne pas faire des CMS sur des périodes plus longues ?
Alors, c'est une très bonne question et l'auditeur a effectivement tout à fait raison de dire que les actions, quand on parle de foncier, etc., on sait qu'on est bien sûr sur des effets de beaucoup plus long terme. Après les 3 ans, finalement, ça, je dirais que ça a une logique, double logique. C'est la logique de la procédure SRU, puisqu'effectivement, on est sur une procédure qui est organisée sur des périodes de 3 ans, etc. Donc, c'est quand même le temps de ces procédures. Comme je le rappelais, le contrat de mixité sociale a la possibilité de fixer et d'aménager les objectifs de rattrapage, nécessairement, il faut que ça soit lisible. Donc, on parle d'une période donnée, on fixe les objectifs pour la période et on voit après. Et puis, je dirais que 3 ans, même si ça peut paraître court, c'est quand même un temps aujourd'hui accessible en termes de pilotage, en termes de gouvernance, en termes de vie aussi, la vie politique municipale. Enfin voilà, on arrive à se projeter. Mais c'est pas parce qu'on fait un document pour 3 ans qu'effectivement on ne se projette pas dans une démarche de plus long terme. L'essentiel, on va dire, c'est quand même d'engager les actions. On n'attend pas qu'effectivement, au bout des 3 ans, on n'aura pas le temps d'avoir identifié un foncier, le maîtriser, sortir les logements. On sait très bien. Mais c'est vrai que si à un moment, on ne décide pas de faire une étude de gisement, de lancer une démarche sur l'identification de la vacance, dans 3 ans, il ne se sera pas passé plus de choses. Je ne sais plus quel est le proverbe là sur l'arbre. C'est le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc voilà. Donc je pense que de toute façon, on est dans cette logique de différents termes. Et même là, si voilà, pour les premiers contrats, il y a peut-être une démarche un peu lourde d'élaboration, on voit bien que peut-être pour la suite, ça sera quelque chose finalement d'intégré, qu'on mettra à jour, où on se reverra et voilà, qui s'enchaîneront. C'est le volet opérationnel du rattrapage. Le rattrapage, il ne se fait pas en 3 ans. Il est évidemment sur beaucoup plus d'années. Donc ça suivra ce rythme-là, mais avec des rendez-vous réguliers tous les 3 ans pour faire le point, se re-questionner et peut-être renforcer les partenariats, peut-être d'autres partenaires associés. Hein. Je rappelle, on a aussi un certain nombre, là je crois qu'on n'avait plus de place sur le plateau, mais on a aussi un certain nombre de CMS où on a les bailleurs sociaux hein, qui ont été co-signataires, des CCAS, enfin voilà. Donc ça peut aussi être des pistes pour la suite.
Je pense que l'auditeur est content, la réponse était bien complète. Une deuxième question peut-être ?
Oui, une dernière question peut-être. Aujourd'hui vous nous avez partagé un exemple de contrat réussi, mais est-ce que peut-être des démarches n'ont pas abouti ?
Alors oui, effectivement, il y a toujours l'autre face. Alors, ça sera aussi un petit peu la démarche de retour d'expérience hein, qu'on veut conduire. Mais voilà, pour le dire très rapidement et sans la préempter puisqu'on ne l'a pas encore menée, mais effectivement, on voit plusieurs facteurs. Là, j'ai dit, on est à 350 CMS signés, peut-être 400. On avait au départ plus de 500 communes qui au moins avaient manifesté leur intérêt. On voit aussi que selon les régions, la part de communes déficitaires ou carencées qui sont engagées dans un CMS, là je disais c'est 38% des carencées qui ont signé un CMS, mais selon les régions c'est effectivement des fois très variable. Donc je pense qu'il faudra regarder, est-ce que c'est des éléments sur la sensibilisation, l'accompagnement. On voit aussi, là on a un exemple hein, d'un territoire très outillé, très équipé, mais on a un certain nombre de communes, on va dire, plus petites, plus rurales, où on n'a pas forcément le PCI très fort, avec un PLH derrière. Donc elles ont pu, par exemple, être un peu impressionnées, découragées. Donc c'est aussi des points d'attention pour les services de l'État, de se dire il faut peut-être un accompagnement plus, on va dire, dans un certain nombre de cas. Et puis, il faut le dire aussi, hein, il y a effectivement un certain nombre de communes où au fil des discussions, où il fallait parler engagement, action à mettre en place. Et voilà, certaines qui pensaient peut-être venir signer, avoir un abaissement des objectifs, ça n'a pas été au bout. Et aussi, un certain nombre de communes qui ont, peut-être par découragement initial ou, on va dire, vision très négative du dispositif SRU, l'impression que, justement, on a avec les services de l'État, ça allait être encore des discussions sur les chiffres, etc., ce qui, on voit bien, là, du témoignage, n'a pas du tout été le cas, qui ne se sont pas engagés dans la démarche. Donc, je pense que, comme je l'ai dit, on est sur une dynamique de long terme à engager, encourager, convaincre. On le voit, pour produire du logement social, il faut évidemment des outils, des moyens, etc. Et puis, il faut de toute façon la volonté. Hein, c'est les deux jambes pour le faire. Donc, je pense que c'est le travail continu qui est à mener et qui sera à mener pour les périodes suivantes.
Merci beaucoup, Hélène. C'était la dernière question. Ok, eh bien, un grand merci à vous toutes et à vous tous d'être venus ici sur plateau. Merci également à vous de votre fidélité. C'est la fin de cette émission et on va se retrouver à 10h30 pour évoquer notamment l'habitat social et la démarche éco-quartier. Un super sujet également. Merci de votre fidélité. Vous retrouvez cette émission également disponible en podcast ou en replay sur les différentes plateformes de diffusion, également sur l'application Radio Territoria et également sur notre site internet. Belle journée et à très vite.
Suivez le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.